Bonne soirée.
À dans une semaine.
Bisous, bisous.
À dans une semaine.
Et à dans une semaine.
Allez aussi. Générique. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Béton. Il est 16h. Vous êtes en direct sur 93.6 et vous écoutez l'émission d'entraide et solidarité. Donc on va passer une heure ensemble. Donc je me présente, je suis Jackie Rojon, je suis adhérente de l'association Entraide et Solidarité. Donc avec moi pour animer Nathalie Dréano, qui va arriver d'ici 2-3 petites secondes. Elle est responsable du centre de formation et directrice adjointe d'Entraide. Nous avons aussi dans le bocal Thierry Guérard, qui va nous piloter pendant cette émission. Il est le directeur du pôle social et médical. Entraide et Solidarité, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association historique en Touraine qui exerce depuis 70 ans maintenant, qui s'appelait Entraide ouvrière jusqu'à l'année dernière et qui a pour mission de venir en aide aux personnes qui sont les plus démunies sur le département. Alors ça veut dire quoi ça? C'est en fait au niveau des activités, répondre au téléphone 115, un numéro à retenir hein, puisque c'est le numéro de l'urgence sociale. Soigner les personnes avec un cabinet médical qui se trouve 55 rue Marcel Tribu à Tours, d'un centre de formation, avenue Gustave Eiffel à Tours. C'est aussi des centres d'hébergement et puis c'est une équipe d'insertion par l'activité économique avec des ateliers d'insertion. Si vous voulez en savoir plus sur l'association, vous pouvez consulter le site internet entraide-et-solidarité.fr. Vous y trouverez nos valeurs, vous y trouverez aussi toute notre actualité. L'objectif de nos émissions, c'est de profiter de cet espace de parole pour contribuer à la lutte contre les exclusions, avec pour parti pris de mettre les témoignages de ceux qui vivent les situations dont on parle dans leur quotidien. Et puis parfois faire tomber des barrières, en tout cas c'est ce qu'on espère. Aujourd'hui, notre émission va parler de la prison, de l'accompagnement à la réinsertion des personnes détenues ou comment préparer une sortie positive. La privation de liberté est une préoccupation majeure de plusieurs associations touringelles. C'est aussi une forme de pauvreté et donc des associations qui se préoccupent de ce sujet dans la défense des droits humains en prison et dans l'aide à la réinsertion. Pour éviter l'isolement et la désocialisation de certaines personnes détenues, les bénévoles visitent les prisons, distribuent des colis à Noël et proposent des animations. Le cas échéant, font fonction d'écrivains publics. On va détailler ça tout à l'heure. La privation de liberté affecte la vie de la famille tout entière, considérant le maintien des liens familiaux comme étant une des clés de la réinsertion, notamment le parloir. Cependant, avant le parloir, l'attente au sein de la prison est parfois longue. Pour épauler les familles dans ces moments difficiles, les bénévoles les accueillent dans les lieux dédiés. À proximité de la prison, c'est la petite maison. Une sortie non préparée conduit quasiment inévitablement à la récidive. C'est pourquoi un ensemble de professionnels, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, des assistantes sociales, des professeurs et des formateurs, des conseillers Pôle emploi et bien d'autres accompagnent les détenus dans leur sortie. Nous avons choisi de traiter ce sujet en abordant les points suivants. Comment ça se passe l'arrivée en prison? Quelle préparation à la sortie? Justice, aspect sanitaire, formation, emploi, logement. Et après la prison, qu'est-ce qui se passe? Donc pour traiter ce sujet, nous avons avec nous des acteurs qui travaillent au quotidien avec les prisonniers. On va faire un tour de table. Donc Tiphaine.
Donc Tiphaine Lapoux, je suis assistante sociale au service d'accompagnement prison justice de l'association Entraide et Solidarité.
Monique.
Je suis Monique Caria, vice-présidente d'Entraide et Solidarité et également écrivain public à la maison d'arrêt de Tours.
Bonjour Monique.
Bonjour, donc Patrick, Richard, moi j'interviens
En tant qu'adhérent bénévole à la maison d'arrêt, dans un atelier qui s'appelle les savoirs de base.
Bonjour, Olivier Trémine, je suis donc le directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation d'Indre-et-Loire.
Alors bonjour Olivier, est-ce que vous pouvez nous présenter donc l'établissement qui se trouve à Tours, puisque la ville de Tours dispose d'un établissement pénitentiaire? Alors déjà, j'ai vu qu'il y avait plusieurs formes d'établissement pénitentiaire. Qu'est-ce que c'est la prison de Tours?
Alors la prison de Tours est en fait une maison d'arrêt. Et une maison d'arrêt, il faut comprendre qu'elle accueille en fait tout public, que ce soit des personnes qui soient prévenues, donc en attente de jugement, ou alors des personnes qui ont été condamnées, soit des petites peines, mais aussi parfois des peines beaucoup plus longues, puisque un certain nombre de personnes attendent d'avoir ensuite une affectation sur un établissement type centre de détention. Et à la différence d'une maison d'arrêt, un centre de détention, c'est une place, un détenu. À la maison d'arrêt, pour ceux qui y interviennent, savent qu'il peut y avoir une cellule, mais hélas, plusieurs détenus dans la même cellule. Voilà la grosse différence entre les établissements pour peine et les établissements type maison d'arrêt.
Plusieurs dans la même cellule, c'est-à-dire c'est combien?
Alors aujourd'hui, si on prend le cas de la situation de Tours, on est en moyenne à 2 personnes qui sont dans une cellule. Il peut arriver, pour des raisons de logistique, à certains moments, qu'ils puissent se retrouver au maximum à 3.
La taille des cellules, à peu près?
Alors dans la norme, on est autour de 12 mètres carrés en termes de cellules accueillant au moins 2 détenus.
Et globalement, il y a combien de personnes dans la prison?
Alors actuellement, nous avons 300 personnes qui sont écrouées à l'établissement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, 200 personnes sont effectivement hébergées. Le différentiel, en fait, se trouve à la fois dans les personnes qui sont sous bracelet électronique. Donc, ils sont écroués à l'établissement, mais ils purgent leur peine sous une autre forme. Et puis, nous avons également les personnes qui sont en semi-liberté, qui sont dans un autre bâtiment attenant à la maison d'arrêt où sont concentrés la majorité des hommes, puisque la maison d'arrêt de Tours, il faut le spécifier, accueille que des hommes, mais elle accueille aussi des mineurs. Et donc, on a aussi le différentiel avec une dizaine de mineurs qui sont actuellement incarcérés.
Et toutes ces personnes-là sont ensemble? Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a des endroits dans la prison qui sont réservés? J'imagine que les enfants ne sont pas au même endroit dans la prison que les adultes, par exemple.
Alors, il y a un quartier mineur, effectivement, qui est complètement étanche par rapport au reste de la détention, même s'il est possible d'envisager parfois certaines activités où on peut regrouper mineurs et majeurs sous certaines conditions. Sinon, la majorité donc, des personnes détenues sont des hommes et ce sont sur une partie du bâtiment qui concentre 3 étages.
Et quand on arrive à la prison, alors comment ça se passe, les premières choses, comment ça se passe, une arrivée?
Une arrivée dans l'établissement, en fait, vous avez un certain nombre de procédures qui sont en place et qui sont maintenant font l'objet d'une labellisation. C'est-à-dire que tout le processus quartier entrant aujourd'hui, sur toute la France, est labellisé, codé, de manière à ce que toute personne reçoive les mêmes informations et soit pris en charge de la même manière, que ce soit au niveau des procédures, lorsqu'on rentre avec des affaires, avec des objets de valeur, le fait d'avoir une douche, d'avoir une information qui est donnée à l'arrivée sur tout le processus, justement de l'incarcération, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, la manière dont on peut avoir des parloirs, la manière dont on va pouvoir être en contact avec la famille, écrire à son avocat, etc. etc. Tout ça fait l'objet d'une codification qui permet justement sur tous les établissements de prendre en charge de la même manière les personnes qui arrivent et de minimiser l'impact de la détention.
Vous êtes le directeur des SPIP, plus précisément Service pénitentiaire d'insertion et probation. Comment votre équipe intervient?
Alors, ce que je tiens à préciser, effectivement, c'est qu'au niveau de l'administration pénitentiaire, nous avons deux filières, la filière sécurité, garde, et nous avons la filière insertion, avec le même but pour l'administration pénitentiaire, c'est celui de prévenir la récidive. C'est celui qui est mis en avant la déclinaison de l'ensemble de nos missions. Pour ce qui est du service pénitentiaire d'insertion et de probation, nous avons une compétence donc, à niveau départemental. La logistique sur la maison d'arrêt est divisée en fait sur une partie où nous avons quatre conseillers d'insertion et de probation qui sont installés dans l'établissement. Puis nous avons d'autres personnes qui interviennent pour bien entendu toute la partie support, logistique. Et puis au niveau de ce qu'on appelle le milieu ouvert, donc toute une autre partie de l'activité d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve donc dans des locaux de rue Albert-Denry au centre-ville. Nous recevons là la plupart de notre population que nous prenons en charge, des personnes qui sont soit libres, soit qui sont sous contrainte. Donc j'ai parlé des personnes sous bracelet électronique par exemple, mais qui ont la possibilité de vaquer pendant la journée selon des horaires qui ont été précédemment déterminés par le juge de l'application des peines.
Excusez-moi, j'ai un zoom de quelques secondes en arrière. Moi, probation, ce mot-là, vous pouvez me préciser ça?
Alors, on peut le résumer par le terme mise à l'épreuve. C'est quelque chose qui est plus communément dans l'esprit, on va dire, du jargon judiciaire. Le sursis mise à l'épreuve est une peine en soi, d'ailleurs, de milieu ouvert. Hein, c'est-à-dire que ça peut être une peine totalement de sursis, auquel on va y ajouter les obligations. Donc, mettre quelqu'un dans le cadre d'une probation, c'est le soumettre, en fait, à l'épreuve et lui demander de réaliser un certain nombre de choses. Donc ça peut très bien être se mettre dans une dynamique de formation ou de travail, mais ça va être aussi de rembourser les victimes. Ça va être peut-être de se poser des questions sur ses orientations en matière d'addiction, hein, au niveau notamment de l'alcool, hein, qui représente quand même aujourd'hui plus de 50% des personnes que l'on suit, soit directement, soit indirectement, dans ce qui les a amenés à commettre des délits.
Ouais, ça peut-être pas, ça va peut-être pas avec l'idée de l'arrivée, quoi. C'est peut-être après quelques temps passés dans la maison d'arrêt ou en cours de peine, disons.
Tout à fait. Ouais. Soit quelqu'un qui aura été condamné et qui ne sera jamais rentré à la prison, donc on sera en amont, hein, dans l'échelle des peines. Avant d'arriver à la prison, il y a tout un nombre de sanctions différentes et adaptées qui peuvent être prononcées. Et puis la mise à l'épreuve peut effectivement se situer à la fin. Une fois que la partie ferme aura été exécutée. Et dans ces cas-là, on rentre dans une partie à la fois d'accompagnement et aussi une partie de contrôle de ces fameuses obligations qui ont été prononcées dans le jugement.
Le bracelet électronique fait partie de ce dispositif?
Alors, le bracelet électronique, comme la semi-liberté ou une autre mesure un peu moins connue qui est le placement extérieur, sont des mesures en fait d'aménagement de la peine. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on pouvait exécuter sa peine et en étant hébergé à temps plein, je dirais, dans un établissement, on peut aussi exécuter sa peine de manière différente, dès lors qu'on se trouve dans les délais, dans un quantum de peine qui est inférieur à 2 ans pour ce qui est de la législation actuelle. On peut effectuer une partie de cette peine sous une autre forme que la prison 24 heures sur 24.
Oui. Ça veut dire que vos conseillers n'interviennent pas dès l'arrivée?
Alors si, les conseillers, comme d'autres personnels pénitentiaires, au moment de l'arrivée en détention, il y a une obligation de rencontrer toute personne détenue. Alors les textes ne précisent pas une durée légale, par exemple 24 heures, mais précisent dans les meilleurs délais. Pour ce qui est de notre procédure sur les maisons de retour dans beaucoup d'établissements, si une personne arrive en général la veille, elle est forcément vue le lendemain systématiquement par un personnel d'insertion. Et pour ce qui est de l'organisation au sein même de la maison d'arrêt, elle sera vue forcément par un personnel gradé de l'établissement, notamment s'il y a des consignes particulières qui ont été données par le juge qui a ordonné le mandat de dépôt ou l'incarcération.
Et systématiquement, toutes les personnes qui sont incarcérées à la prison ont relation avec justement ces conseillers?
Donc en général, ils rencontrent 4 personnes. Donc un personnel de direction, un membre de l'unité sanitaire, ça fait partie aussi des choses obligatoires, donc un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation, donc en l'occurrence un conseiller, et puis ensuite vous avez également un représentant de l'éducation nationale pour lequel est offerte la possibilité aussi de le rencontrer et d'évaluer les besoins. Et ensuite, vous avez bien entendu un ensemble de personnels, de bénévoles aussi qui sont présents et qui, dans les 15 premiers jours, 15-3 semaines, vont pouvoir aussi rencontrer d'explications sur les procédures, mais je vais laisser la parole parce que nous avons ici présent quelqu'un qui intervient dans le cas des infos collectives.
Donc voilà, je suis Monique Caria, visiteuse de prison, écrivain public. Effectivement, tous les jeudis, nous intervenons au quartier arrivant et nous rencontrons toutes les personnes qui viennent d'être incarcérées pour leur donner des informations sur les associations. Associations aussi bien nous intervenant à l'intérieur, en leur disant qu'ils peuvent faire une demande pour avoir un visiteur de prison en faisant une demande qui passe par le SPIP, mais aussi également une demande, s'ils ne savent pas écrire, pour avoir un écrivain public. Et dans ces cas-là, ils le font directement et il y a un écrivain public qui intervient tous les vendredis matin. Nous les informons aussi de l'accueil des familles à la petite maison. Nous les informons aussi, ce qui a déjà été dit par d'autres personnels, mais sur toutes les activités qu'ils peuvent faire. Et on leur dit à chaque fois, c'est bien que vous puissiez sortir de votre cellule et aller à la bibliothèque, au sport, voilà.
Quelles sont les autres associations, Monique, qui interviennent?
Alors, dans les autres associations, il y a la CIMAD. Alors, qui intervient plus pour les personnes en situation étrangère, hein, pour leurs droits. Il y a aussi une association qui s'appelle, qui s'occupe plus des animaux, des personnes détenues, s'appelle Dignité Retrouvée, parce qu'effectivement, quelquefois, la personne, elle a laissé son chat ou son chien, donc elle est en lien avec la prison. Il y a aussi le secours catholique qui intervient chez les mineurs pendant les vacances pour faire de la cuisine une fois par semaine pendant les vacances scolaires. Moi, j'en vois pas d'autres. Le Génépi, les jeunes du Génépi qui viennent pour faire des animations ou pour faire individuellement pour faire donner des cours individuels pour des personnes pour qui le groupe est difficile.
Merci Monique. On s'interrompt une petite minute pour une première pause musicale. Merci.
Surtout quand tu...
Donc nous reprenons sur l'insertion des prévenus, des détenus pardon, en prison. Nous venons d'évoquer l'arrivée avec l'intervention de différentes associations. On peut peut-être continuer sur une journée type.
Alors sur l'organisation, il faut savoir que forcément les personnes qui sont détenues sont dans leur cellule. 22 heures sur 24 pour celles qui vraiment ne souhaitent pas participer aux activités, mais sinon dans une journée, une personne détenue a tout à fait la possibilité quand même d'être plusieurs heures à l'extérieur de sa cellule pour participer soit à des actions qui sont menées dans l'établissement, soit pour aller travailler. Et puis il y a tout ce qui tourne autour des besoins qui sont d'aller prendre des douches, qui sont aussi de rencontrer sa famille, donc au niveau des parloirs. Donc pour ce qui est des prévenus, ils peuvent avoir plusieurs parloirs dans la semaine, là où c'est un petit peu plus limité pour les condamnés. Vous avez donc la possibilité de demander à travailler, donc plusieurs types de postes sont offerts à l'établissement. Alors, ce qu'on appelle communément soit les postes d'auxiliaire, soit vous pouvez travailler en atelier. Donc là, il y a des concessionnaires, hein, il faut savoir qu'il y a des entreprises qui amènent du travail à l'établissement. Ça peut être du tri, ça peut être du contrôle qualité, ça peut être de la confection, etc. Donc il y a la possibilité de travailler. Alors après, il faut bien prendre conscience que la totalité des détenus, soit ne sont pas en capacité de travailler, pour certains, soit ils n'ont pas forcément envie de travailler, c'est tout à fait leur droit de ne pas, mais ceux qui soit sont ce qu'on appelle indigents et ou ceux qui veulent subvenir à leurs propres moyens et ne pas être vis-à-vis de leur famille une difficulté supplémentaire peuvent quand même obtenir un salaire qui leur permet d'être à peu près autonome au niveau de leur séjour à l'établissement et également subvenir éventuellement aux dettes et de rembourser éventuellement les parties civiles, puisque c'est offert la possibilité de mettre un peu d'argent chaque mois, qui ensuite seront versés aux parties civiles. J'entends pour les condamnés, les prévenus n'ayant pas cette obligation.
Et le fait de travailler dans la prison, est-ce que ça permet d'avoir une vie un peu meilleure dans l'établissement ?
Alors forcément que les détenus vous diraient que ça permet forcément de cantiner des produits, puisque j'utilise volontairement le thème, hein, c'est-à-dire qu'en fait les détenus font un bon de cantine. Donc c'est une liste en fait de produits qui est validée au niveau de l'administration, qui représente une sécurité aussi bien alimentaire que par rapport aux produits qui vont pouvoir rentrer à l'établissement. Et c'est la possibilité d'améliorer effectivement un peu le quotidien par rapport aux trois repas qui sont distribués chaque jour.
Monique, tu vas intervenir ?
Oui, je voulais dire, reprendre un peu ce qu'a dit M. Trémine. Effectivement, c'est un mieux quand il travaille. Sinon, c'est la famille qui souvent envoie de l'argent pour qu'il puisse cantiner. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui fument et ce n'est pas en prison qu'ils vont arrêter de fumer. Donc sinon, c'est une charge pour la famille. C'est pour compléter tout simplement.
On parlait tout à l'heure pendant la pause de période d'observation. C'est combien de temps ? Quel est l'objectif de cette période ?
Alors effectivement, une personne, quand elle rentre, quand elle arrive, va passer quelques jours dans ce qu'on appelle le quartier arrivant. Donc ce sont des cellules qui sont en dehors de la détention, du reste de la détention, où vous avez deux personnels de surveillance qui sont en responsabilité, qui vont être en contact avec, avec la population qui arrive. C'est le moment de rencontrer, on l'a vu, un certain nombre donc, de personnels et d'intervenants. Ça va être l'occasion de faire le point sur leur situation, notamment pour des prévenus qui sont rentrés, on va dire, du jour au lendemain, hein, sans avoir pu préparer cette arrivée. Donc ça veut dire qu'il y a des formalités administratives à faire. On a parlé de Dignité Retrouvée, qui est effectivement une association qui nous permet, dans certains cas, de résoudre voilà, la problématique des animaux au domicile. Mais ça va être aussi de faire le lien avec la famille. Et dans ce cas-là, c'est uniquement le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui est habilité à pouvoir prendre contact avec la famille, en accord, bien entendu, avec la personne détenue. Et puis, s'il n'y a pas de restrictions particulières ordonnées également par le juge d'instruction, si on est dans le cadre d'une personne prévenue. Ça va être aussi l'occasion de s'assurer de la situation psychique de la personne. Hein. Alors, bien entendu, l'entretien avec le médecin de l'unité sanitaire est important, mais tout partenaire, toute personne, les familles aussi peuvent être amenées à nous signaler que la personne qui est rentrée est peut-être dépressive, le choc carcéral dans les premiers jours est important, et donc on se doit de s'assurer que la personne a bien reçu toutes les informations, de la rassurer sur ce qui va se passer, parce qu'il y a aussi un grand inconnu pour certains, et puis essayer, dans la mesure du possible, de lui apporter toutes les informations qui vont lui permettre de s'adapter aussi, tant bien que mal, à ces nouvelles environnements, pour pouvoir passer le cap des 15 premiers jours, qui sont souvent le cap le plus difficile lorsqu'on arrive en prison.
Ça doit être un choc d'arriver en prison. Tiffane, tu interviens pendant cette période-là ?
Alors non. Non. Moi, en fait, j'interviens quand le CPIP, enfin le Conseil pénitentiaire d'insertion et probation, rencontre les personnes pendant leur permanence. Généralement, ils font donc une évaluation des besoins de la personne. Et quand il y a une problématique de maintien ou d'accès à un logement, me font directement une fiche de liaison et moi, je rencontre ces personnes le plus rapidement possible. Alors, on peut être quelques jours, une semaine. Donc, moi, je les rencontre lors de permanences que je tiens à la maison d'arrêt de Tours tous les jeudis. Et là, donc il y a une évaluation qui est faite avec la personne. Donc là, moi, je vais travailler sur toutes les problématiques sociales, c'est-à-dire maintien dans le logement, s'il y a besoin de faire lien avec un bailleur ou la famille, le budget. Si les personnes n'ont pas de logement en arrivant, on va travailler la question justement d'un accès, soit un hébergement d'insertion selon le degré d'autonomie, soit un logement. Et là, on va travailler tous les freins qui sont liés. Donc, on va être sur le budget, sur les liens familiaux, l'accès aux droits, c'est-à-dire faire des dossiers de CMU complémentaires, voire un dossier RSA, préparer la sortie. Donc, moi, j'interviens depuis un an et demi à la maison d'arrêt de Tours. Donc, c'est toujours en lien avec les CPIP qui m'orientent les personnes avec qui je fait un réel travail de partenariat. Et moi, mon intervention, elle se situe aux personnes qui arrivent. Comme on est sur de la préparation à la sortie, moi, j'interviens auprès des personnes qui ont été condamnées et maximum un an avant la sortie. Donc, on sait qu'il y a des plus petites peines un an avant la sortie, ce qui nous permet réellement d'anticiper les choses, notamment si on est sur une question pour intégrer un hébergement d'insertion. Donc là, on a un vaste panel, mais avec des délais d'attente qui sont relativement longs à Tours. Donc on peut être pour un logement social à 6 mois, comme un centre d'hébergement, on peut attendre jusqu'à un an d'attente. D'où l'intérêt que je les rencontre le plus rapidement et le plus en amont possible pour travailler ces questions-là. Et moi, mon intervention, elle se situe... Donc, j'interviens à la maison d'arrêt de Tours et je fais aussi un lien avec l'extérieur puisque je continue d'accompagner les personnes quand elles sont en aménagement de peine. Donc, on disait tout à l'heure, soit avec un bracelet électronique, soit une semi-liberté. Et aussi les personnes qui ne sont plus écrouées. Donc, je continue de les accompagner jusqu'à, entre guillemets, la résolution du problème ou une entrée en logement ou un hébergement d'insertion. Là, du coup, je passe le relais. Vraiment, le but, c'est de faire le lien à l'intérieur et l'extérieur.
si les personnes n'avaient pas de logement, si la personne avait déjà un logement, ça marche comment ça? Alors la personne quitte son logement, elle est écrouée et...
Alors, c'est des questions qui peuvent se travailler puisque là, je donne un exemple. Si la personne est au RSA, elle peut continuer de percevoir par exemple le RSA, Revenu de Solidarité Active, pendant quasiment 6 mois après l'incarcération. Donc là, on vérifie qu'il y a bien des virements automatiques, voir avec le bailleur, faire le lien. Et puis si on sait qu'il va y avoir une interruption des ressources parce que la personne va être incarcérée sur un délai plus long, on travaille aussi en lien avec le SPIP pour éventuellement que la personne rentre son logement pour ne pas la mettre en difficulté au niveau du budget. Et là, c'est très difficile puisqu'en fait, il y a vraiment un lien avec la famille quand il y en a une. Puisque la personne étant incarcérée, il faut pouvoir avoir un box pour mettre des meubles, faire le déménagement, l'état des lieux de sortie. Enfin, ça amène à des situations très complexes en fait.
Et la famille porte quand même une part de travail à effectuer pour accompagner la
Souvent,
personne.
Souvent, oui. Tout à fait. Elle peut porter. Après, il y en a qui prennent le relais hein, financièrement, justement, pour éviter ce genre de rupture. Mais on voit bien, oui, que les familles, elles peuvent être très présentes et solliciter beaucoup d'énergie. Ouais.
Justement, il y a un établissement qui est situé juste en face de la prison, enfin de la maison d'arrêt à Tours, qu'on appelle la petite maison. Et là, il y a un accueil pour les familles des détenus, je pense.
Effectivement, cette petite maison existe depuis 1986, parce qu'au départ, les familles qui attendaient, elles attendaient dehors, sur le trottoir. Donc déjà, au départ, c'était une mise à l'abri. Et puis, c'est un lieu où elles peuvent se poser, un lieu d'information, un lieu d'orientation. Alors... Et un lieu d'accueil, c'est un accueil inconditionnel où on ne demande rien aux familles. Parce qu'effectivement, quand vous avez un proche incarcéré, bon, il y a le choc pour la personne qui est incarcérée, mais la famille, c'est un peu la double peine. Hein. Certaines disent, moi aussi, je me sens en prison, parce qu'il y a le regard des autres, ne pas le dire ou le dire aux enfants, c'est toujours très compliqué. Et quand elles arrivent, elles viennent sonner des fois à la maison d'arrêt, sauf qu'on ne rentre pas comme ça, on ne donne pas les vêtements comme ça, il y a des règles. Et notre maison est un sas, c'est vraiment un sas entre chez elle et puis cette maison d'arrêt. Donc elle fonctionne, cette petite maison, les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis, les jours d'ouverture de parloir. Nous avons une vingtaine de bénévoles et nous avons une assistante sociale qui intervient 2 demi-journées et Tiffaine qui coordonne les bénévoles de la petite maison. Voilà, donc c'est un accueil vraiment inconditionnel. Nous sommes aussi en lien à la petite maison avec Livre Passerelle, une association qui intervient et qui lit des histoires aux enfants et aux familles. Nous avons aussi le planning familial qui fait aussi une permanence une fois tous les 15 jours, je crois. Hein. Voilà.
Ok, on arrête une petite minute à nouveau pour une pause musicale. We'll be right back.
Donc on va reprendre sur la vie en prison et notamment sur toutes les activités qui sont proposées pendant cette période.
Alors on peut les distinguer en plusieurs thématiques. Bien entendu qu'on propose des activités dites socio-culturelles qui vont être pas seulement pour être de l'occupationnel, hein, avoir des activités autour de l'écriture, autour de la réalisation d'objets, etc. On s'aperçoit que c'est des choses qui permettent aussi de discuter, de pouvoir dialoguer sereinement entre personnes et pas forcément être dans des relations tendues. Hein. Donc c'est aussi apprendre à respecter l'autre. Donc toutes les actions qui sont menées derrière sont sous-tendues par le fait d'être capable de communiquer et de vivre en société. Et puis vous avez les actions qui sont vraiment ciblées liées à l'insertion professionnelle. Là, on va pouvoir détailler toutes les associations, les professionnels, les bénévoles, puisqu'il y a un vrai travail de synergie, d'orientation les uns vers les autres qui se fait. Alors, bien entendu, pour l'emploi, la mission l'école, la mission locale sont présents à l'établissement. On va retrouver aussi le GRETA, qui est à la fois un organisme de formation. On propose des périodes de préqualification à l'établissement. On va avoir un module qui va démarrer très prochainement. Et puis, en amont, il est possible aussi de travailler sur ce qu'on appelle les savoirs de base. Donc, on travaille avec un organisme qui s'appelle le CRIA, dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme. Et justement, ce qui permet après d'orienter sur un atelier, l'atelier savoirs de base, sur lesquels je vais laisser la parole.
Oui, effectivement, un atelier savoirs de base qui fonctionne toutes les semaines, hein, tous les jeudis matins. Donc avec un bénévole et une formatrice de l'entraide. C'est un atelier donc qui est évidemment destiné aux détenus volontaires qui souhaitent donc participer à cet espace un petit peu de formation, mais aussi, je pense, un espace pour eux qui leur permettent de s'évader un petit peu, j'aime bien le terme, s'évader de leur cellule. C'est un moment où, effectivement, on a affaire à un groupe relativement hétérogène dans les connaissances, hein, puisqu'on peut avoir à la fois des détenus ne sachant ni lire et à peine écrire, à des détenus ayant des formations, des bacheliers, par exemple, dans le groupe. Donc, ça nous pose, évidemment, une force d'adaptation, hein, sur... les thèmes qu'on veut bien travailler avec eux. C'est souvent des termes de réflexion autour de textes en français. Ça peut être aussi sur l'apprentissage des mathématiques, calcul. C'est la base, je dirais, un petit peu que nous, on a dans notre intervention. Parfois, ça va au-delà. Hein. Parfois, c'est aussi un espace pour eux, un espace de parole entre eux, mais aussi avec nous sur différents aspects, hein. Ça peut être parfois sur leurs conditions de détention, mais nous, on n'a pas vocation à répondre à ça. On recentre bien quand même notre action sur cette activité un peu plus scolaire, un peu plus sur les acquisitions, même si eux, ils ont des demandes, hein, par rapport à ça assez fortes. Donc c'est un groupe hétérogène aussi en termes de participation. Hein, parce que nous, on s'inscrit dans un quotidien pour le détenu. Alors, il a parfois, dans ce créneau-là, d'autres activités. Ça peut être du soin, ça peut être une promenade. Donc, il est amené à faire des choix. Parfois, il fait le choix de venir à l'atelier. Parfois, il fait d'autres choix. Donc, ce qui fait que c'est un groupe aussi assez hétérogène. Hein. On peut avoir parfois 2-3 détenus. Parfois, on peut en avoir 12. Là aussi, ça nous pose un problème de logistique et un problème en termes de préparation sur l'activité qu'on veut bien mener.
Vous menez 2 fois par an une action spécifique, objectif sortie.
Oui, alors ça, c'est plus effectivement plus spécifique. C'est a priori plutôt, ça s'adresse plutôt aux détenus qui sont en fin de peine. Où là, on travaille plus l'aspect d'un CV, l'aspect des lettres de motivation. dans la perspective d'une recherche d'un emploi, recherche de stage, recherche de travail en insertion. C'est une activité qui est là pour le coup deux fois par semaine, donc un peu plus intensive, qui est menée par différents partenaires. Il y a effectivement différents partenaires qui interviennent durant cette session-là. La prochaine, je crois que c'est au mois de novembre.
Octobre.
Ah, pardon. Donc au mois d'octobre, qui voilà, a là un objectif plus précis hein, que le savoir de base. Mm. Ouais, Tiffany, tu voulais...
Non, j'étais en train de réfléchir quand est-ce que commençait l'objectif sorti. Fin octobre.
La semaine du 22 octobre.
D'accord.
Voilà.
Et ce sera tous les mardis et jeudis, mardi après-midi et jeudi matin.
Alors là, je crois qu'interviennent différentes associations. Il n'y a pas que l'entraide et solidarité qui intervient. Il y a Pôle emploi.
Il y a Pôle emploi qui intervient pour la préparation des dossiers. Et puis, il y a une socio-esthéticienne, mais qui intervient ensuite de l'action. C'est une action qui est menée depuis 3 ans. Et donc, elle intervient aussi sur la posture, le look. Je pense qu'en prison, le look, c'est important aussi, faire attention à soi. Je ne sais pas, Tiffany, tu peux peut-être en parler aussi. Est-ce que tu as... Non,
oui, tout à fait. Après, c'est une question d'estime de soi, de travailler cette question-là. Comment on fait aussi, effectivement, quand on est incarcéré, oui, pour travailler sur son image qui est très souvent dégradée. Donc, effectivement, les retours de cet atelier, ils sont très positifs, généralement.
On le retrouve hein, dans les savoirs de base, cette image dégradée, dévalorisante. Mmh. Souvent, je ne sais pas faire, je ne saurais pas faire. C'est tout de suite ce qu'ils mettent en avant. Il y a une espèce de posture qu'ils ont a priori. Ça s'inscrit dans leur histoire, hein, je pense. Carcérale. Notamment sur l'aspect des savoirs de base, on touche à quelque chose où souvent ils ont été en échec. Hein, que ce soit des apprentissages en mathématiques, en français, c'est pas forcément pour eux une bonne histoire ou tout au moins un bon souvenir. Donc il faut déjà un petit peu démystifier ça et essayer de les mettre en confiance parce qu'ils sont, ils ont, on verra peut-être tout à l'heure, j'ai un petit texte là qu'ont réalisé 4 détenus. Hein, on avait travaillé sur un extrait de l'Ecclésiaste de la Bible. Avec cet extrait-là, on leur a demandé de réfléchir un petit peu s'ils avaient envie de produire des choses. Alors, il n'y avait pas... L'idée, ce n'était pas de produire quelque chose pour le montrer aux autres. Mais ils ont quand même réussi à produire un petit poème.
On t'écoute.
Et ben voilà, on leur a demandé l'autorisation de bien vouloir, s'ils étaient d'accord pour qu'on puisse en faire part. Ben je vais vous lire un petit peu ce qu'ils ont pu écrire durant cette session. Un temps pour parler et un temps pour se taire. Un temps pour tout et un temps pour rien. Un temps pour monter et un temps pour descendre. Un temps pour embarquer et un temps pour débarquer. Un temps pour être aimable et un temps pour être désagréable. Un temps pour être actif et un temps pour être passif. Un temps pour l'honneur et un temps pour la trahison. Un temps pour la liberté et un temps pour être emprisonné. Un temps pour être galant et un temps pour être un goujat. Un temps pour les amis et un temps pour les ennemis. Un temps pour le jour et un temps pour la nuit. Un temps pour voir et un temps pour ne pas voir. Un temps pour écouter et un temps pour faire le sourd. Voilà, Didier, Jonas, John et Charlie ont réalisé ce petit extrait de poésie.
Merci Patrick, et puis merci à eux. On s'arrête quelques secondes encore.
Les menottes, les notes, la machine à taper. Ton nom, prénom, naissance, nationalité. Poche vidée, ensuite lacée, ceinture enlevée. Feu d'artifice et l'armistice, le pays est en fête. Pour moi la fête en garde à vue dans les cages de la police. 9h, 11h, passe, ton nom est sur le tas. J'ai fait si pas dans l'enfer des galères. La poisse, les empreintes, les plaintes et ce tribunal. Ma famille et mes proches en soutien principal. Les flics éclatent, roulent à fond, bon mon avocat est clair. Mais le juge persévère, il est 20h, mon matricule 49-203, j'entre en cellule, D128, la porte claque, mon cœur bat. Mon cousin, 49-204, me parle de date, me mate, enchaîne, soleil, business et rate. Le trouble est dans ma tête, et le maton, mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée, un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés, les jours se répètent. Et le maton, mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée, de derrière l'œillet. Je rêve de m'évader, le trouble est dans ma tête. Et le maton,
première nuit, matelas pourri, lit superposé. Carreaux cassés, les rapaces sous mes pieds. Au réveil, j'ai comme la corde au cou dans cette cage qui fouette. Dans la cour, les corbeaux, les mouettes font la fête tout l'heure. Résonne encore derrière les portes du pénitencier. Dans ma tête, gamelle, parloir, courrier tourné. Visite médicale, anormale et mon état zéro. Au moral, plus la matinale, goal, mes dents me font mal. J'ai des boutons dans le dos, passif et les 100 pas parmi les prisonniers. 3 mètres de mur, de grillage et un barbelé. 8 douches dans le mois, en sueur sans bouger. Soirée télé, coucher, soleil d'été levé. Mon neveu que je n'ai pas vu naître au parloir me rend ouf. Dans ces murs, l'odeur des chiottes, du sale, de la bouffe, j'étouffe dans ce goulag, la cellule, le stalag, les jours se répètent.
Et le maton,
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés, les jours se répètent.
Et le maton,
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader, le trouble est dans ma tête.
Et le maton,
il suffit d'être au mauvais moment, mauvais endroit. Et vlant dans tes dents, tu choisis pas, prends ça, trahis ma vie. Mon nom s'allie comme si j'étais un assassin. C'est comme perdre une partie de poker contre Satan. Dans cette merde en chien, traité en moins que rien. Certains sortent puis reviennent de nouveau sous écrou. Dans ma cellule, un camé, prends un cachet à chaque gamelle. Nouvelle, un suicidé, évacué, menotté, c'est le dawa. Enfin, pactage, libérant pour 49-203.
Ah, pas si t'es sorti.
Ça faisait des mois, j'ai remis lunettes, ma casquette et mes blanches baskets. J'ai rouvert et j'ai encore moins le goût pour la fête. Autour toujours nos embrouilles de rebeu et négro. Et le B de bleu sonne avec le B de barreau. Je dois signer, dire présent une fois par semaine, que personne m'engraine. Je dois pas me faire serrer avant mon jugement. Chez nous le son ne dit jamais, ça y est c'est fini. Ça m'arrivera pas, pas moi, moi je pourrais pas béton. Donc à tous les lascars qui ont tourné dans le noir, à toutes les familles qui attendaient au parloir, à tous les concernés par ce genre d'histoire, bonne chance si tu passes devant la barre. Judas fut le mauvais œil pour l'homme de Nazareth. Toi, n'oublie jamais que le maton nous guette. Mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. Un œil dans l'œillet, j'entends le bruit des clés. Les jours se répètent.
Et le maton,
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Barreaux, portes bloquées, ma vie est bloquée. De derrière l'œillet, je rêve de m'évader. Le trouble est dans ma tête.
Et le maton te
guette. J'ai pas ta voix, encore moins la vision. Mais la mine de ton crayon m'offre une brève évasion. Mon corps est détenu, mais mon âme et mon esprit peuvent rejoindre l'horizon dans une brève évasion.
Et le maton te
mon corps est enfermé, seule mon âme peut voguer. Porte bloquée, courrier, brève évasion. Donc à tous ceux qui ont galéré, qui galèrent en prison, à tous ceux qui soutiennent pour pas, tu peux être les
blonds. On vient d'évoquer avec Patrick les ateliers savoir de base pour les personnes en situation d'illettrisme, pas tout à fait, mais à difficulté d'écriture et de lecture. Il y a aussi le rôle des écrivains. Monique, tu peux nous parler, puisque c'est ton rôle aussi au sein de la prison.
Voilà, effectivement, comme l'a dit Patrick, il y a des gens qui sont en situation d'illettrisme ou qui savent un peu écrire, mais qui ont quand même quelques difficultés à l'écrit. Et on sait très bien que aussi à la prison, ils ont besoin de liens. Et le lien de contact avec l'extérieur, ça passe aussi par les lettres qu'on peut envoyer. C'est leur seul moyen de communication. Et effectivement, notre rôle en tant qu'écrivain public, c'est de les accueillir avec leurs demandes. Donc on peut faire des lettres administratives, actrices, pour l'administration, voilà, je vais y arriver. Des lettres d'amour, des lettres de rupture, toutes sortes de lettres. Et moi, souvent, je me décris comme étant un stylo. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne me remarquent même pas. Ils peuvent parler de choses assez intimes. Je vais écrire Et je trouve ça formidable d'avoir ce rôle de stylo, tout simplement, et de leur permettre d'être en lien avec l'extérieur. Et ils nous font aussi, quand ils ne savent pas lire, lire les réponses. Voilà, je trouve que c'est très intéressant et c'est très important.
Ils te demandent aussi d'écrire au juge pour avoir des peines un peu...
On peut écrire au juge, on peut écrire à leur avocat, à leur famille. Quand ils ont... quelquefois, pour les banques, il faut qu'on écrive pour informer les banques qui sont... Alors ça, on fait toujours... Quand c'est très dans l'administration, c'est avec en lien avec le SPIP qui dit « Est-ce que tu peux pas écrire pour monsieur un tel, à telle administration pour résilier un contrat de téléphone et tout ?» Donc on fait toutes sortes de courriers. J'ai même écrit des testaments. Les gens me demandaient d'écrire un testament parce qu'ils ne savaient pas s'ils n'allaient pas mourir en prison. C'est surprenant, mais ça peut arriver. Toutes sortes de lettres.
Donc là, ils sont soit... Là, c'est un peu plus bizarre le testament, mais c'est quand même souvent dans une idée de sortir.
C'est dans une idée de sortir, oui. C'est dans une idée de sortir et de maintenir un lien familial. Parce que certains n'ont pas toujours la famille qui peut se déplacer pour venir les voir. Donc maintenir, envoyer un petit mot, une lettre, voilà.
Là, tu parles des écrivains et les écoutants, parce que...
Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les visiteurs de prison. Ouais. Alors, visiteurs de prison, c'est un bénévole qui, à la demande de la personne aussi, en lien avec le SPIP, hein, c'est le SPIP qui oriente en disant « Monsieur un tel va aller avec tel visiteur ». C'est une rencontre informelle, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, entre deux personnes.
C'est des personnes qui ont souvent très peu de liens.
Voilà, on a souvent des personnes qui ont peu de liens. Ceux qui ont leur famille, qui viennent les voir régulièrement, on ne les voit pas en tant que visiteurs. C'est plus des personnes. Vous savez, il y a des gens, moi j'ai vu des fois des gens qui ils ne voient personne. Ils vont prendre des longues peines et tout le monde leur a tourné le dos. Donc les visiteurs, c'est un peu... c'est une petite ouverture pendant la semaine.
On va finir aussi sur ce rôle des bénévoles. Le jour de Noël, tu nous as raconté une anecdote. Tu peux peut-être nous la redire en préparant l'émission.
Oui, effectivement. Alors, on est plusieurs associations. Alors, il y a le... J'espère ne pas oublier. Le Secours catholique, Entraide et Solidarité... la communauté musulmane, il y a beaucoup d'associations, on va faire des cadeaux, on offre des cadeaux aux personnes détenues et c'est le seul moment où nous, en tant que bénévoles, visiteurs, on peut entrer dans la cellule. Et je me souviens de la première fois où j'y suis allée, où j'ai vu que dans cette cellule, il y avait des humains. Donc j'ai eu quand même déjà des frissons. Et un monsieur qui est venu nous remercier et en disant je ne verrai pas mes enfants à ce moment-là. Donc c'était un moment d'émotion. C'est ce que j'avais raconté l'autre fois.
On n'a pas évoqué, mais c'est vrai que rentrer dans une prison, on l'a tous vécu, c'est bruyant. Et c'est vrai que le sentiment en ressortant, quand on n'est pas détenu, il est assez particulier. Tiffaine, tu peux peut-être nous dire la première fois où tu es rentrée à la maison d'arrêt de Tours et que tu en es ressortie puisque tu es là.
Alors oui, ce qui est très particulier, c'est les bruits des talkie-walkie, des clés. C'est vrai que c'est un monde qui est un peu particulier. Après moi, de ma vision, le fait d'être renfermé aussi avec le détenu, le fait de, on voit bien, on doit attendre que le surveillant vienne nous ouvrir pour ressortir. Enfin, c'est un peu l'école de la patience. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et souvent, les détenus, c'est ce qu'ils me disent aussi. Il faut être patient, il faut attendre. Et voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas, quand je ressors. Voilà.
Patrick, aussi, peut-être juste deux mots pour...
Oui, moi, ce que j'ai effectivement ressenti, c'est l'aspect bruyant, ça, c'est quelque chose de remarquable. Aussi, cet aspect un peu oppressant. Vraiment, on vit l'enfermement. Enfin, quand on rentre, c'est une autre ambiance, c'est un monde à part. On ressent ça dans ce lieu qui n'est pas du tout un lieu confortable, que pourraient le décrire certains. C'est vraiment quelque chose qui doit être assez oppressant pour l'ensemble des détenus. Et c'est vrai que quand on sort, on a un aspect... on respire, il y a quelque chose quand même qui pèse dans ce lieu-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti.
Et justement, au sujet de la sortie, alors comment ça se prépare une sortie
de prison parce que c'est un moment, je pense, qui doit être très, très attendu des détenus, mais alors après.
Alors, très attendu et aussi très angoissant. Donc là, je pars les exemples des personnes qui n'ont pas de logement, pas de famille ou pas d'amis pour les héberger à la sortie, ne serait-ce que ça. Le fait de pouvoir anticiper les demandes, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de ressources pour le RSA, prendre un rendez-vous à Pôle emploi pour activer des droits, mais une personne qui n'a pas de logement, qui ne sait pas où aller à la sortie, là, c'est très anxiogène. Et le fait qu'on puisse travailler cette question-là, généralement, on voit qu'il y a un soulagement quand même, même s'il n'y a pas de solution miracle. Mais le fait... alors, moi, je travaille service d'accompagnement prison-justice au pôle social et médical de l'entrée des solidarités, à savoir qu'au pôle social et médical, il y a quand même plusieurs services, dont un service aussi de maraude, où il y a deux travailleurs sociaux qui vont au-delà des personnes qui sont à la rue. Je travaille aussi beaucoup en lien avec le 115, qui est l'hébergement d'urgence. Et le fait de pouvoir faire le lien avec, avec le 115 pour qu'il y ait un hébergement à la sortie, ne serait-ce que ça, c'est très important. On a aussi un service de domiciliation, c'est-à-dire qu'on peut être l'adresse des personnes qui n'ont pas de logement, ce qui permet de poursuivre des démarches. Quand on sort, il y a les 15 premiers jours, c'est un peu la course au niveau administratif, à savoir que la personne n'a pas le RSA le premier mois, donc comment se débrouiller pour avoir une aide financière pour pouvoir manger le midi, ne serait-ce que ça. Et c'est vrai que tout ça, ça se prépare même s'il n'y a pas de solution miracle. Le fait de pouvoir organiser, d'avoir des rendez-vous à la sortie, même si on sait qu'au début ça va être un petit peu compliqué, ça tient quand même la personne. Vraiment, voilà. Je pense que ça, c'est très important.
On a évoqué les personnes en semi-liberté. C'est aussi une façon de préparer la sortie.
Tout à fait. C'est un sas qu'on peut mettre en place dans le cadre d'un aménagement de peine. Aussi bien pour les personnes qui ont un projet, éventuellement un emploi et puis une formation, mais c'est également possible pour ceux dans les dernières semaines, les derniers mois de l'exécution d'une peine, de pouvoir bénéficier de cet aménagement quand on n'a pas d'hébergement et de pouvoir enclencher toutes les démarches. Ce qu'a dit Tiffaine, c'est très important, justement, les premiers temps liés à la sortie sont une cause de récidive, et mieux sera préparé ce temps en amont avec les professionnels qui interviennent, plus la personne sera dans des dispositions et une possibilité de repartir sur de nouvelles bases et ne pas retrouver ses anciennes habitudes ou les personnes avec lesquelles éventuellement elle avait commis des délits. Je tiens juste à préciser aussi par rapport à tout ce qui a été dit que la prison, c'est que la privation de la liberté, c'est pas autre chose. Donc tout le droit commun qu'on essaye de mettre en place à l'établissement est très important, justement en vue de préparer cette sortie au mieux. Il n'y a pas que des solutions qui sont comme ça toutes faites, proposées aux personnes détenues. Ça tient beaucoup aussi à leur capacité à se mobiliser. On doit les inciter à le faire, c'est vraiment notre rôle premier. Mais il y a aussi tout un nombre important, on ne les a pas tous cités, mais il y a beaucoup d'intervenants qui viennent à la maison d'arrêt et qui offrent aussi bien à titre bénévole que professionnel leurs services. Et il y a la possibilité de construire un projet professionnel lorsqu'on est à l'intérieur pour pouvoir le décliner ensuite lorsqu'on sort. Et je tiens, puisque la parole m'est donnée, à remercier bien entendu tous les professionnels, mais aussi tous les bénévoles qui interviennent à l'établissement.
Bien, merci à tous. On va arriver au terme de l'émission. Il reste juste une toute petite minute, peut-être Monique, pour nous parler quand même des journées nationales prison qui ont lieu au mois de novembre.
Voilà, effectivement, nous allons organiser avec d'autres associations, alors Entraide des Solidarités, le Génépi, la CIMAD, le Secours catholique et la Croix-Rouge, nous allons organiser des journées nationales prison qui ont lieu dans toute la France. Donc à Tours, il y aura une conférence le 22 novembre. L'intervenant sera Bernard Petitgat. Et il y aura le 23 la projection d'un film. Le film sera À l'ombre. Alors À l'ombre, c'était au départ une pièce de théâtre. C'est Olivier Ruiz qui a monté une pièce de théâtre avec d'anciens détenus.
Merci à tous les auditeurs de Radio Béton. Prochain rendez-vous le mardi 6 novembre à 15h.